cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie.
Bonjour, moi c'est Maxence. Nous sommes élèves de seconde Bachibac au lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse. Une section binationale française et espagnole qui nous permettra d'avoir le bac et son équivalent espagnol, le bachillerato.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter une période sombre du Chili, à savoir la période qui suit le coup d'État du 11 septembre 1973.
Le coup d'État chilien a été planifié et encouragé par les États-Unis d'Amérique. Il a été dirigé par le général Augusto Pinochet, militaire qui s'est autoproclamé président de la République du Chili de décembre 1974 à mars 1990. Il voulait mettre fin au gouvernement de Salvador Allende, président élu démocratiquement par le peuple chilien le 3 novembre 1970, avec sa fameuse voie vers le socialisme.
Cette politique de Allende est caractérisée par la réforme agraire. Elle consiste à répartir équitablement les terres du pays. Autre volet de cette politique, la nationalisation de secteurs stratégiques. L'objectif était de reprendre aux entreprises privées les banques et les mines de cuivre, notamment, pour qu'elles appartiennent à la collectivité. Cette voie vers le socialisme a entravé les intérêts des entreprises états-uniennes installées dans le pays. La réforme agraire a nuit quant à elle aux élites traditionnelles chiliennes qui voyaient ainsi leur pouvoir disputé.
Dans ces conditions, un coup d'État va, en une journée, renverser les espoirs des ouvriers et du peuple favorables à ces réformes. C'était le 11 septembre 1973.
Tout commence dans la nuit du 10 au 11 septembre. La marine chilienne venait de passer toute la journée accompagnée de l'US Navy pour faire leurs manœuvres communes, comme ils le faisaient tous les ans. En rentrant à Valparaiso, la première et principale ville portuaire du Chili, les troupes d'infanterie de marine coupent les communications et placent l'amiral Montero en état d'arrestation. Les soldats s'emparent ensuite de la ville dès 3h du matin.
À 9h du matin, le palais présidentiel de la Moneda est assiégé par l'armée de terre sous le commandement du général Pinochet. Salvador Allende, président de la République du Chili, reçoit un appel du vice-amiral Patricio Carrabal, lui proposant de quitter le pays sain et sauf avec sa famille.
Mais Allende répond « Le président de la République élu par le peuple ne se rend pas » et il refuse sa proposition. Plus tard, il s'exprime à la radio et déclare
« Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. »
Face à ces événements, il ne me reste qu'une seule chose à dire aux travailleurs. Je ne renoncerai pas. Je payerai de ma vie la loyauté du peuple. La graine que nous avons semée dans la conscience de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra pas rester enfouie indéfiniment. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne peut arrêter les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font.
À la suite de son discours, le président coupe toute communication avec l'extérieur. Peu avant midi, deux avions de chasse de l'armée bombardent la Moneda à coups de roquettes. Les chars suivent peu de temps après.
Vers 14h, le palais est envahi, mais Salvador Allende est déjà mort. Il se serait suicidé à l'aide d'une arme automatique qui lui avait offert Fidel Castro. Il déclarait quelques heures plus tôt à l'un des putschistes « Le président de la République ne se rend pas ».
Cette version est aujourd'hui largement contestée par les historiens et les journalistes. Ils affirment que Allende aurait été assassiné avec une arme ensuite falsifiée afin de ressembler à celle offerte par Fidel Castro, autre ennemi des États-Unis. Cette fin tragique laisse alors présager la suite des événements au Chili.
Augusto Pinochet est alors désigné chef suprême de la nation. Une junte militaire est établie. Une poignée de militaires prend donc le pouvoir. Ce gouvernement autoritaire annonce qu'il assume le mandat suprême de représenter la nation dans le but de rétablir l'ordre institutionnel de la justice. Il prononce la dissolution du Congrès national, des conseils municipaux, des syndicats et des partis politiques.
Pinochet abolit aussi la liberté de la presse et instaure un couvre-feu. Inspirée par le coup d'État militaire au Brésil en 1964, la junte prétexte qu'elle lutte contre le communisme et substitue à la lutte des classes l'intérêt supérieur de la nation.
Dans cette optique, une répression féroce va se déchaîner contre les partis d'extrême gauche, notamment le mouvement de la gauche révolutionnaire, aussi connu sous l'acronyme MIR. Elle touche aussi le mouvement ouvrier. Ses membres sont victimes de violences, tortures, parqués dans des camps de concentration, comme dans le stade de Santiago du Chili.
Cette répression systématique, organisée par la DINA, les services de renseignement dirigés par Manuel Contreras, va conduire à la mort d'au moins 3000 personnes selon un rapport de 1991 mené par le président de la transition démocratique. Pour les organisations non gouvernementales, ce chiffre est estimé à environ 6000, auxquels s'ajoutent les témoignages de près de 35 000 victimes de violations des droits de l'homme.
Vous écoutez Radio B.
Pour mieux comprendre cette période de l'histoire du Chili, nous avons recueilli des témoignages de personnes qui ont vécu ce coup d'État.
On écoute Pedro Tapia. Aujourd'hui retraité, il a quitté le Chili en 1974. Il avait 33 ans au moment du coup d'État.
Mes souvenirs de ce coup d'État, ben, je dirais qu'ils sont, ils sont presque intacts dans ma mémoire. Et j'étais réveillé le 11 septembre par le passage très bas des avions de la force aérienne du Chili. Je pensais à rien de spécial, mais bizarre quand même. Très rapidement, ils ont frappé à la porte. C'était ma belle-mère qui habitait dans, sa, dans le même immeuble pour nous prévenir que c'était un coup d'État et que je ne bouge pas, etc. Qu'on ne bouge pas. Ma femme était secrétaire du doyen de la faculté d'ingénieur à la même université. Et elle était reconnue aussi comme femme de gauche. Nous étions tous les deux militants du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire. Nous avons appris par un coup de fil quelques heures plus tard que le président Allende était mort. Et on a commencé à écouter les messages, aussi bien à la radio qu'à la télé, comme quoi les militaires avaient pris le pouvoir, qu'il fallait dénoncer tous les étrangers qu'on connaissait parce qu'ils étaient venus pour assassiner les militaires et leurs familles. Et vers 1h du matin, il y a une cinquantaine de policiers qui ont débarqué chez moi. J'étais accusé d'être cubain et d'avoir pris des contacts avec la direction du MIR. Après le coup d'État, j'ai démenti tout ça, j'ai montré mes papiers. Ils m'ont demandé de m'habiller, ben, j'étais couché, hein, et de les accompagner. Et il a dit à ma femme de ne pas s'inquiéter, que j'essaie de retour quelques 2 ou 3 heures plus tard. Il y a eu une petite erreur parce que j'ai mis 9 mois pour entrer. Et pendant ces 9 mois, j'ai connu 3 camps de concentration. J'étais frappé, mais pas vraiment torturé comme l'ont été beaucoup de mes amis, et camarades, compagnons de voyage, entre guillemets. Après ces 9 mois, on a liquidé les peu qu'on avait, entre autres la voiture, et avec ça, nous avons pris nos billets pour venir en Europe, jusqu'à Lyon, où nous avions des amis qui nous avaient proposé de nous recevoir.
C'était Pedro Tapia, réfugié politique chilien.
Un autre témoignage maintenant avec Raúl Gutiérrez, aussi réfugié politique chilien, ancien dirigeant dans le parti de Salvador Allende. Il avait 23 ans lors du coup d'État au Chili.
La plupart des gens, surtout nous, on savait qu'il avait un coup d'État qui allait arriver un jour ou l'autre. Mais on ne s'attendait pas qu'on soit aussi violent que ça. On croyait que l'armée chilienne allait être divisée et puis nous, on pourrait participer avec eux pour défendre le gouvernement populaire de Salvador Allende. Malheureusement, ça n'a pas été comme ça. Les travailleurs qui voulaient défendre Allende, ce gouvernement, n'ont pas les moyens de pouvoir aider à défendre ce gouvernement. La junte militaire, il a décrété un couvre-feu pendant 3 jours jusqu'au 3 septembre. C'est seulement ce jour-là que j'ai pu reprendre contact avec mes camarades du parti pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Le 17 septembre, je suis allé à l'usine où je travaillais Et je me suis aperçu qu'il était déjà recherché. J'étais arrêté par mes conditions de dirigeant du Parti socialiste chilien. J'étais transporté dans une caserne à 10 km de là, un port qui s'appelle Quintero, où j'ai passé la journée en garde à vue. Tard le soir, on m'a envoyé, après m'avoir interrogé légèrement, à Valparaíso, Menoté et Cagoulé. Là-bas, c'était différent. On m'a fait monter dans un bateau et on m'a fait descendre à un moment donné par un escalier en colimaçon où j'étais reçu en bas avec des coups qui venaient de partout. Ensuite, ils m'ont demandé de me déshabiller complètement et puis ils m'ont fait asseoir dans une sorte de chaise métallique où j'étais attaché des pieds et des mains. Et j'ai commencé à sentir les coups d'électricité partout dans mon corps. Il n'y avait pas de questions, seulement des coups de courant. Après, il a commencé à me demander où c'était les armes, qui c'était mes camarades, qu'est-ce qu'on allait faire, si j'avais été à Cuba à poursuivre l'intrusion militaire, etc., etc. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'est très humiliant de se sentir nu en sachant qu'il y a des personnes qui sont devant toi, qui te font tourner de tous les côtés, qui te tapent. On m'a fait remonter encore par l'escalier en colimaçon et descendu du bateau. À ce moment donné, et moi, levé les menottes et puis la cagoule. Et je me suis rendu compte que je venais de partir de le bateau école de la marine chilienne qui s'appelle l'Esmeralda. Ensuite, ils m'ont amené dans un autre bateau, un bateau prison, un bateau de la marine marchande qui transportait des charbons. Et je suis rendu dans une cale où je trouvais beaucoup de camarades qui étaient déjà là. On était une soixantaine. Sinon, la noyade avec dans des tonneaux d'eau, remplis d'eau, et de l'asphyxie avec un sac en plastique sur la tête. J'ai resté là à peu près 15 jours, 3 semaines. J'ai entendu un bruit, je ne savais pas si j'étais mort. Heureusement, j'étais vivant. On m'a levé ma cagoule et mes menottes, et ils m'ont dit qu'ils allaient me libérer. Je suis rentré chez moi, j'avais perdu je ne sais pas combien de kilos. J'étais très, très, très maigre. C'était mon beau-père, qui était un ancien officier de l'armée de l'air chilienne, qui avait fait tout pour me sortir de là. J'avais été condamné, je suis après, à 5 ans de prison au nord du Chili, dans un camp de concentration appelé Pisagua. Avec l'aide de camarades argentins, chiliens et mexicains, j'ai pu rentrer dans l'ambassade mexicaine, où j'ai resté pendant 2 mois avant de m'envoler pour Mexico. L'exil, c'est pas facile. On se rend compte qu'on a sauvé la vie, mais qu'il y a plusieurs camarades qui sont restés, qui sont morts, qui sont disparus, qui sont encore en prison. C'est difficile à supporter.
Est-ce que vous ressentez encore le poids de cette période sur le Chili actuel?
Ce qui est regrettable, c'est qu'encore aujourd'hui, presque 5 ans après, il y a encore des gens au Chili qui ne croient pas que tout ça s'est passé comme ça, que nous on a inventé, que ce n'était pas aussi violent, que ce n'était pas aussi terrible. Et ça fait très, très, très mal. Heureusement, la jeunesse chilienne s'est réveillée et a fait plus que nous n'avons pas pu faire pendant 30 ans après la dictature de Pinochet. Aujourd'hui, on prépare une nouvelle constitution au Chili, plus démocratique que ce qu'avait fait Pinochet pendant sa dictature. Et puis, l'élection présidentielle a été gagnée par un militant de gauche, de centre-gauche. J'ai l'espoir maintenant que la transition de la dictature, ça sera fini. Je suis personne pour pardonner. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est oublier tout ce qui s'est passé. Et j'espère que la transition depuis le coup d'État, ça sera fini maintenant. Avant de finir, je voudrais remercier de tout mon cœur la France, le peuple français, les institutions françaises qui nous ont reçus, etc.
C'était Raúl Gutiérrez, un réfugié politique chilien qui a vécu le coup d'État de 1973.
Comme nous avons pu l'entendre dans ces témoignages, la dictature de Pinochet a été traumatisante. Elle a brisé violemment l'élan démocratique de la voie vers le socialisme portée par le marxiste Salvador Allende et poussé vers l'exil plus d'un million de Chiliens fuyant les violences politiques, les tortures, les exécutions et les emprisonnements arbitraires dans des camps de concentration.
Malgré la difficulté de ce vécu, Raúl Gutiérrez et Pedro Tapia ont décidé de témoigner pour entretenir la mémoire de ces événements, porter la voix de ces disparus et faire connaître cette histoire plus que tragique.
Merci à Raúl Gutiérrez et Pedro Tapia pour leur témoignage.
C'est la fin de cette chronique sur la dictature chilienne. On espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre écoute.
Passez une belle journée sur Radio B.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.